Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Salut Nina.
Bonjour Safia.
Comment vas-tu ?
Écoute, très très bien, je suis très heureuse d'être là.
Mais moi aussi, c'est ce que j'allais te dire, puisqu'au final, c'est vrai que je suis ton contenu depuis un petit moment. Moi, je t'ai découvert forcément sur LinkedIn, pas par hasard, puisque tu as une très bonne stratégie pour le coup. Je t'ai découvert là-bas, ensuite je suis abonnée à ta newsletter, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Bref, j'ai fait un petit cheminement comme ça, et j'ai adoré ton contenu. Et ce que j'ai adoré chez toi, c'est qu'on sent immédiatement tes convictions et tes valeurs. C'est quelque chose qui transparaît immédiatement. Et du coup, forcément, je me suis demandé si tu as toujours été ce genre de personne qui n'avait aucune difficulté à exprimer ce qu'elle pense sans avoir peur de dire les termes, tu vois, ou si c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps.
Non, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec le temps. Alors, d'abord, avant ça, moi aussi, je suis ton contenu. On en a parlé en off tout à l'heure, nos auditeurs n'étaient pas là, mais c'est vrai qu'on s'est suivis, on s'est croisés, et là, on se voit enfin, donc très, très heureuse d'être là. Et effectivement, moi, je n'ai pas toujours été cette personne. Pour une raison simple, c'est quand j'étais petite, moi, tu vois, j'étais assez introvertie. Je suis un enfant unique. Donc, j'ai pas eu de frères et sœurs avec lesquels vraiment beaucoup rigoler, déconner. J'étais finalement très vite mise dans le monde des adultes en tant qu'enfant. Donc, ça m'a fait grandir vite. J'avais des conversations très, très intéressantes avec des adultes. Mais dans le monde des enfants, si tu veux, je me reconnaissais pas trop. J'étais hyper introvertie, etc. Donc, la prise de parole, c'était pas quelque chose de base qui était facile pour moi. Et autre chose, c'est que quand j'étais petite, j'étais ultra dyslexique. J'avais moins 20 en dictée. Donc la dictée, c'est quand même la seule matière à l'école où tu peux avoir des notes négatives, histoire de bien te faire comprendre que t'es nulle.
C'est clair.
Donc ça te met dans certaines dispositions qui font que après, t'as un peu des... Ok, je suis nulle en dictée, je suis nulle en orthographe. Donc disons qu'à la base, non, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait ni à prendre la parole en public et ni à écrire, tout simplement, puisqu'aujourd'hui, mon métier, c'est l'écriture, tu vois. C'est enseigner l'écriture. Et aujourd'hui, j'ai parcouru le chemin qui fait que d'abord j'ai pris confiance en moi sur ce que j'avais à dire. Ensuite, j'ai réussi à poser une expertise sur ce que je faisais et à travailler de manière alignée avec mes valeurs. Donc j'ai dû vraiment faire un travail sur « Ok, Nina, aujourd'hui t'enseignes l'écriture business, mais pourquoi tu le fais ?» Moi je le fais parce que je pense qu'aujourd'hui il y a trop de barrières à l'écriture. Je pense qu'on stigmatise trop les gens qui font des fautes d'orthographe et que les gens, parce qu'ils ont peur d'écrire, ne prennent pas la parole. Et ne pas prendre la parole, c'est ne pas défendre ses intérêts. Or, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc finalement, collectivement, on a intérêt à faire en sorte pour que la parole soit répartie de manière démocratique. Tu vois, toi, tu as un média qui est le podcast. On peut se dire que on peut s'exprimer facilement à l'oral, mais d'ailleurs, ce n'est même pas le cas de tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, la barrière pour prendre la parole, elle est de plus en plus basse. Il n'y a plus besoin d'être dans des médias, il n'y a plus besoin d'être invité à la télé. On peut prendre son podcast et puis créer son podcast de la même manière qu'on peut créer son post sur LinkedIn. Mais il y a encore une barrière qui existe. C'est celle qu'on va se mettre à soi-même. Celle de se dire, OK, moi, je ne suis pas légitime à faire un podcast. Moi, je ne suis pas légitime à écrire un post, à publier, à dire aux gens qui je suis et à donner mon expertise. Et donc, c'est un peu aujourd'hui ce pourquoi je fais ça. C'est parce que, pour te faire, voilà, tu m'as posé une question, donc moi, je réponds de manière hyper large, mais en réalité, je n'ai pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, j'œuvre pour que tout le monde puisse, en tout cas, donner ses valeurs et travailler sur sa prise de parole et puisse prendre la parole au même titre que quand on prend la parole, on prend le pouvoir.
Est-ce que parmi les femmes que tu formes à l'écriture, est-ce que tu as vu des peurs ou des blocages qui reviennent assez fréquemment?
Ah ouais, systématiquement. C'est le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour dire ça? Autre chose, c'est ça a déjà été dit plein de fois.
Ouais.
Donc, qui suis-je pour redire la même chose? Finalement, c'est nul ce que je fais. La peur de faire un bide, la peur d'échouer. C'est-à-dire que je publie un post, j'ai zéro like, j'ai zéro commentaire. Je me sens nulle, en fait. Et le manque de temps. Donc, quand on a des entrepreneuses, moi, je m'adresse essentiellement à des entrepreneuses. Comment est-ce que tu fais pour intégrer la création de contenu dans ton quotidien, alors que toi, t'es prise par tes clientes, par ton opérationnel au jour le jour?
Ça a été une problématique, ça, pour toi, parce que t'es la fondatrice, du coup, de la manufacture du copywriting. Est-ce que ça fait un peu plus d'un an et demi que tu formes, du coup? Et puis, depuis l'année dernière, tu es également maman d'un petit Léon. Donc, je pense que cette problématique de l'organisation de la vie d'entrepreneur et de maman et de femme, bien sûr, ça a dû être un vrai sujet pour toi.
Ouais, et je vais rebondir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la charge parentale, elle est quand même assumée majoritairement par les femmes.
Ouais.
Ouais, et donc, en fait, l'idée, c'est comment t'aides aussi les femmes, en tout cas moi, c'est ce pourquoi je me bats tous les jours, c'est comment t'aides les femmes à se développer dans leur business. Et donc effectivement, il y a la vie de maman et il y a la vie d'entrepreneuse. Donc moi, je suis maman depuis 9 mois, donc il y a 9 mois. Et oui, c'est un enjeu de gérer son temps. Moi, c'est clairement quelque chose que j'ai affronté dès le début parce que j'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après avoir posé ma démission dans ma boîte, tu vois. Donc, si tu veux, c'était... Alors, j'étais contente, mais c'est quand même le moment où tu te dis, là, j'ai quand même 2 projets qui arrivent. Donc, moi, j'étais en CDI, vraiment, tu vois, dans des boîtes. J'étais en CDI, ça faisait genre 5 ans, j'étais en CDI. Pas dans la même boîte, mais tu vois, c'était quand même cette vie-là.
Le timing
Voilà, donc ça c'est un peu mon histoire perso, mais si ta question c'est comment est-ce qu'on concilie les deux ?
En fait, je pense que ton expérience peut être intéressante. Pour être honnête avec toi, moi la maternité, alors c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais j'appréhende le fait de le vivre en tant qu'entrepreneur, d'autant que c'est mon entreprise qui fait vivre mon foyer, tu vois. Toi t'es une entrepreneuse qui est hyper transparente, je trouve, et que tu partages beaucoup là-dessus. Donc, au final, ça a été quoi ton plan d'action et comment tu t'es organisée? Parce que, mine de rien, tu avais un des comptes en tête. Tu te lances à ton compte. Puis, en même temps, tu te dis, dans 9 mois, en fait, je vais avoir un petit être humain à charge. Donc, comment est-ce que tu t'organises pour te dire, il faut que je lance l'entreprise, faire en sorte qu'elle perdure, si tu veux, même quand moi, je m'occuperai de mon bébé?
Ouais, je pense que ça a été quelque chose de difficile, mais c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que, comme tu dis, tu as un compte à rebours qui se déclenche. Donc, tu as 9 mois. Moi, je me suis dit, OK, j'ai 9 mois pour créer une boîte rentable. Je m'étais mis un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois parce que c'était un truc mental que je m'étais fixé.
Ouais,
tu vois, je ne dis pas... Oui, voilà, c'est un truc que tout le monde se fixe.
Ouais.
Je sais pas, on a tous un rêve avec ce 10K, je sais pas ce qu'on a. Mais bon, voilà, c'est un truc un peu chelou. Mais moi, je dis pas que tout le monde doit faire ça. Je dis juste que moi, c'était ce que je m'étais mis en tête comme objectif. Et donc, première chose, c'est que j'ai eu 3 trimestres. Les 3 trimestres de grossesse, les 3 premiers trimestres de ma boîte sont les mêmes. Donc, premier trimestre, ça a été, OK, va vendre. Peu importe, là, tu lances ton activité, essaye pas de trouver un logo, une charte graphique, je sais pas quoi, machin, laisse tomber, fais pas un site internet, trouve juste des clients. Donc ça, c'est étape 1, fais de la thune. Après, tu auras d'autres problèmes.
Donc, tu as vendu ton temps, tu as fait du coaching.
Donc là, j'ai vraiment fait du coaching 101. Je suis allée trouver des clients. J'ai vendu un premier produit. C'était un produit de coaching individuel. Et au début, bah, en fait, j'ai fixé un prix. C'était 900 euros les 5 séances.
Ah oui, c'était pas cher payé.
Voilà. Je l'ai vendu une fois de manière beaucoup trop facile, entre guillemets, parce que j'avais déjà une autorité que j'avais construite quand j'étais salariée. Et petit à petit, j'ai augmenté le prix de ce produit. Donc, je l'ai passé progressivement à 1002, puis à 1005, puis à 2000, puis à 2005. Aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 3000 euros. Comment j'ai augmenté mon prix? C'est que j'ai un peu fait une boucle de feedback avec mes clients. Je leur ai demandé, ben voilà, comment tu as ressenti ce produit? Ça t'a aidé? Est-ce que tu aurais été prêt à payer plus? Qu'est-ce que tu as pensé du prix? Et en ayant cette conversation hyper honnête avec mes clients, ben, j'ai pu augmenter mon prix. Et moi, ça m'a permis aussi de ne plus avoir le syndrome de l'imposteur et de ne pas me dire « Non, mais tu te rends compte, les gens ne paieront jamais aussi cher pour ça. » Il y a déjà le fait que j'ai augmenté mon prix progressivement et aussi le fait que j'ai toujours revalidé avec le client si la valeur était OK par rapport à ce qu'ils avaient payé. Et donc ça m'a permis d'être hyper sereine là-dessus. Donc premier trimestre, le trimestre de la vente. Une fois que j'avais vraiment vendu, je dirais au max, je suis arrivée au max de mes capacités. Je suis arrivée au max de mes capacités parce que dans une semaine, je pouvais vendre 20 heures de coaching et qu'au bout d'un moment, bah, une fois que tu as augmenté ton prix, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, bah, tu es obligée de trouver une autre manière de faire. Et donc, le deuxième trimestre, c'était le trimestre de la productisation. Donc, j'avais déjà ce produit de coaching, j'ai créé un deuxième produit qui s'appelle le Bootcamp. C'est un produit qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn sur 8 semaines. C'est sous forme collective. Il y a aussi un peu de coaching individuel, mais en gros, elles s'entraident, beaucoup sont entrepreneuses, donc elles s'entraident énormément, ça fait un peu cerveau collectif, elles progressent ensemble, etc. Donc ça va super bien, il y a Marine qui a fait 1 million de vues, il y a Anaïs aussi qui a dépassé 1 million de vues, enfin bref, ça marche quand même plutôt bien. Donc ça, c'est le deuxième produit. Et j'ai lancé un troisième produit qui est un produit de formation en ligne. Et donc là, tu vois, j'ai petit à petit, et donc je reviens à ta question, décorréler mon temps de mes revenus, parce que moi, c'était quelque chose que je voulais faire pour avoir ma tranquillité d'esprit. Je savais que dans 9 mois, j'allais accoucher. Je savais que dans 9 mois, j'allais avoir un enfant. Et que je ne savais pas du tout combien de temps j'allais pouvoir lui consacrer. À la fois à mon enfant, mais à la fois à ma boîte. Ouais. Donc, c'est ça qui est dur, en fait. Ce qui est dur, c'est que tu es dans l'inconnu. Tu te dis, mais en fait, je n'ai aucune idée de comment je vais me comporter en tant que mère. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé de devenir mère. Donc, quelle mère je vais être? Ça se trouve, j'aurais plus envie de faire une boîte. Ça se trouve, j'aurais envie d'être mère au foyer et de m'occuper de mon enfant. Et ça, c'était presque le plus flippant. C'était d'essayer d'envisager toutes les possibilités. Et donc, le troisième trimestre, c'était le trimestre de la délégation. Donc là, j'ai créé des stocks de contenu moi-même. Je me suis aidée d'autres personnes qui étaient formidables, qui m'ont aidée à créer des stocks de contenu, qui m'ont permis de maintenir une présence sur l'été. J'accouchais au mois de juin, sur l'été. C'était cool parce que c'était aussi une baisse d'activité.
Ouais.
Donc, c'était pratique. Sachez-le, si vous voulez faire un enfant, faites-le au mois de juin. Voilà, comme ça, le message est passé. Voilà, donc en gros, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, là, tu as vraiment les trois trimestres, comment je les ai organisés. Je me suis fait un focus par trimestre. Ça, c'est une méthode qu'on appelle la méthode des 90 jours, qui est une méthode qui te permet de te fixer des objectifs à 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est suffisamment long pour voir si ce que tu fais apporte des résultats. Et c'est aussi suffisamment long pour pas que tu lâches l'affaire. Tu dis, OK, je teste sur 90 jours et au bout de 90 jours, on remettra en question le plan, mais tu te lances un plan de 90 jours qui représente un trimestre. Premier trimestre, la vente. Deuxième trimestre, la productisation, parce que j'avais un chiffre d'affaires qui était conséquent et donc je voulais l'augmenter parce que mon temps était limité. Mais encore une fois, ça ne marche pas si tu n'es pas full en coaching. Ça ne sert à rien de lancer un produit en ligne si tu n'es pas full en coaching. Ouais. Tu vois. Deuxième trimestre, productisation. Et troisième trimestre, vraiment la délégation. Et donc, pour un peu te parler de mon ressenti, sur quand Léon est né, j'ai passé 2 mois un peu d'été, un peu off avec mon mec, mon enfant et tout. Et par contre, le retour de congé mat, ça a été ultra violent, quoi.
Pourquoi?
Parce que des journées qui pouvaient faire autant d'heures que je voulais à l'époque. Des journées qui pouvaient faire autant d'heures que je voulais, dans le sens où je pouvais bosser 12 heures dans la journée si je voulais. Aujourd'hui, plus que 7 heures. Donc j'ai eu le sentiment d'être coupée dans ma charge de travail. Il y a une demi-nina qui travaille.
La frustration.
Exactement, la frustration et aussi la frustration du travail d'être mère, en fait. Enfin, c'est un travail qui prend du temps dans la semaine. C'est un travail qui est dur et c'est un travail que tout le monde ne kiffe pas, quoi. Mmh. Et moi, j'en parle beaucoup parce que je me suis fait un devoir de parler de ça pour sortir de l'image qu'on se fait de la maternité comme étant un truc genre super génial qui va révolutionner ta vie et qui va donner un sens à ta vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes pour qui c'est le cas, mais moi, la maternité, ça ne m'a pas révolutionné et changé toute ma vie. Au contraire, c'était dur, quoi. Je dors 3 heures par nuit, parfois. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai dû intégrer, en fait. Encore aujourd'hui, je suis dans ce travail. Léon, il a 9 mois. Je pense que je n'ai pas fini encore d'endosser mon travail, enfin mon rôle de mère. Ça fait bouger énormément de choses dans ma vie. Et je me dis, mais en fait... Et c'est normal, en fait. C'est aussi accepter que ce move-là, il est normal. Et dans ta vie d'entrepreneuse, bah, en fait, tu dois essayer de te laisser à toi-même l'espace que les choses bougent.
Mmh.
Donc, si tu peux arriver, moi, c'est ce que j'ai eu, en tout cas, à mettre un moment un peu plus down, en fait, un peu plus calme, que ce soit en déléguant, que ce soit en automatisant, peu importe. Mais essayer, en tout cas, à toi-même de te donner cet espace-là, parce que ben, ça réorganise et ça réagence pas mal de choses. Donc, moi, c'est vraiment le retour. Et franchement, ben, même encore aujourd'hui, j'arrive pas à résoudre le truc, quoi. C'est une galère. Enfin, vraiment. Vraiment.
Ouais, je pense que c'est une galère qui n'est pas terminée, quoi. Mais bon.
Oui, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant.
Oui,
tu vois.
Bien sûr.
Et c'est ça qu'il faut. C'est la différence qu'il faut bien faire. C'est que ce n'est pas parce que c'est compliqué et que tu galères que... En fait, déjà, il faut voir ça comme un apprentissage. Mmh. Comme l'entrepreneuriat, en fait, tu n'es pas entrepreneur, tu t'apprends, t'apprends à vendre, t'apprends à faire du marketing. Mais en fait, l'instinct maternel, il n'existe pas, en fait. Enfin, l'instinct maternel, c'est pas ton enfant, il arrive, et tu sais tout faire parfaitement. Donc, le fait d'apprendre, ta montée en compétence, elle prend du temps, elle prend de l'énergie. Et en réalité, c'est OK si t'es pas en kiff absolu d'être mère dès le jour 1. Et même si c'était pas en kiff absolu, enfin moi c'est ce que je me dis, et je pense que ce genre de discours, ben, c'est encore quelque chose qui a du mal à être entendu. Moi je l'ai vu sur LinkedIn, j'ai fait un post dans ce sens-là. En fait il y a plein de gens qui me disent, non mais Nina, tu te rends pas compte, ça devrait être le meilleur bonheur de ta life. Non, bah désolé les gars, mais moi jouer avec des cubes en bois, la journée ça me gave en fait.
Ah tu me rassures, quand je m'occupe de mes nièces, je me dis je peux le faire 20 minutes, après j'en ai marre de jouer.
Oui, c'est ça. Non, c'est ça, mais personne ne me dit que c'est chaud en fait, juste d'empiler des cubes quoi. Et donc moi j'essaie vraiment de libérer en tout cas la parole là-dessus et de dire bah c'est ok en fait, si toi telle ou telle chose te gave, c'est ok. Et donc il y a des moments où tu peux aussi te dire ben, « En fait, je m'éclate plus dans ma vie d'entreprise que dans ma vie de maman. » Tu vois. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas mon enfant. Ça ne veut pas dire que ça va rester toute la vie comme ça. Et ce n'est pas grave, d'ailleurs. C'est juste que la société a tellement idéalisé le rôle de mère et tu peux tellement rien dire, et à part c'est la chose la plus incroyable au monde, que bon, bah, tu culpabilises. Mais l'idée, c'est aussi de se déculpabiliser là-dessus.
Ouais, complètement. Je suis d'autant plus contente que tu sois là pour transmettre ce message-là, parce qu'effectivement, je pense que c'est hyper important. Est-ce que le fait d'être maman, ça t'a aussi apporté peut-être des ambitions ou des objectifs différents avec ton entreprise ? Parce que mine de rien, en tout cas, t'es connue sur Internet en tant que Nina Ramen, même si voilà, il y a Ramen ta fraise, il y a la manufacture du copywriting, etc. Donc techniquement, ton entreprise dépend de toi. Est-ce que le fait d'être maman, ça a soulevé de nouvelles questions ?
Ouais, merci pour ta question, elle est super intéressante. Ça pose la question de la marque personnelle.
Ouais.
En réalité, quand tu as une marque personnelle forte, qui est mon cas, c'est Nina Ramen. Donc les gens, quand tu leur vends, ils s'attendent à voir Nina Ramen. Tu vends une heure de coaching, les gens s'attendent à ce que ce soit Nina Ramen. Tu vends une heure de formation, les gens s'attendent à ce que ce soit Nina Ramen. Et donc l'avantage d'une marque personnelle, c'est que marketingement parlant, bah, c'est plus facile à faire monter. C'est plus facile de s'attacher à Nina Ramen que de s'attacher à la manufacture du copywriting, tu vois. Parce que Nina, elle a ses émotions, elle a son histoire, elle était dyslexique, après elle s'est lancée, elle a eu son enfant, etc. Donc les gens peuvent avoir de l'empathie, s'identifier à toi. Une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'avantage de la marque personnelle, c'est que tu peux la faire monter rapidement, tu peux être connue en tant que personne, mais l'inconvénient, c'est que toute ta boîte dépend de toi. Mm-hmm. Tu es à la fois la personne qui produit, la personne qui market, la personne qui vend. Et donc ça pose une limite qui est la limite de ton temps. Et tu as fait un excellent lien avec la maternité, mais pas seulement. Tu peux vouloir, même les personnes qui ne sont pas parents et mères, tu peux vouloir que ta boîte dépende moins de toi, ce qui est mon cas. Aujourd'hui, moi, j'ai fait, la première année, j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires.
Toute seule ?
Ouais. Alors, ben, en fait, voilà, j'ai pas parlé de chiffres, mais quand je me suis lancée, tu vois, j'ai rapidement, au bout du premier trimestre, j'ai fait Medica par mois. Okay. Et donc, la question, c'était okay, comment on dépasse ça. Et aujourd'hui, là, alors, j'ai pas fait 300 000 euros la première année. J'ai fait 250 000 euros la première année.
Oui.
Voilà, ça, c'est une première chose. Et le truc, c'est qu'au bout de ces 250 000 euros, ce qui est déjà énorme, très bien, c'est comment est-ce que tu fais pour passer à l'étape d'après. Et moi, Nina, toute seule, bah, je peux pas passer à l'étape d'après toute seule. Sauf si, parce que bah, j'ai la contrainte d'avoir un enfant, mais même si je n'avais pas cette contrainte, si tu veux, ton temps, il n'est pas illimité. Même si tu as des produits en ligne, ça n'empêche que bah, tu dois quand même vendre ces produits en ligne, tu dois quand même faire du marketing, tu dois quand même produire du contenu. Donc, tu dois quand même gérer les gens qui sont sur ton produit, donc la satisfaction client, etc. Bon. Donc, la question, c'est comment tu fais pour continuer à grandir? Et la réponse, c'est bah, tu t'entoures. Donc, moi, les 250, je les bossais avec des freelances que j'avais, mais c'était de manière ponctuelle sur des missions. C'était beaucoup moins sur le long terme, sauf pour une personne qui s'appelle Élise Murigneux, que je salue, que j'aime beaucoup. Et, mais sinon, la plupart du temps, tu vois, c'était assez, assez ponctuel. Donc là, l'enjeu sur l'année prochaine, sur 2023, ça va être comment est-ce que ben, je fais que la boîte dépend moins de mon temps. Et donc, le lien qu'on en fait avec la marque d'entreprise, c'est aujourd'hui, ben, il faut que Nina Ramen, en fait, elle s'efface au profit de Ramène ta fraise, si c'est la boîte que je choisis. Parce que bah, Ramène ta fraise, aujourd'hui, elle porte un message qui est le fait que les femmes doivent prendre la parole et d'aider les femmes, en tout cas, à prendre la parole sur des espaces pro. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce message me dépasse ? Déjà, moi, en termes de personne, en fait, ok, moi, je veux... Ce qui est important, c'est pas moi, c'est mon message. Et la deuxième chose, c'est comment je fais pour créer une équipe pour que ben, ce ne soit pas que moi qui incarne ça, pour que demain, ben, si c'est Élise qui fait la formation, c'est OK. Si c'est Élise qui vient en interview, c'est OK. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait quelque chose de plus grand qui permet deux choses? La première, d'avoir quelque chose qui te dépasse, mais la deuxième aussi, de te libérer du temps. Donc, à un moment, si tu veux passer à l'étape suivante, tu as deux choix. Soit tu automatises beaucoup, 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 mais même si, au bout d'un moment, si tu as tout automatisé, ben, en fait, voilà, tu ne peux pas aller plus loin. Et la deuxième chose, c'est comment tu délègues. Et donc, ça, c'est un peu mon enjeu aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Et je passe de solopreneuse, freelance, à bah, chef d'entreprise, en fait.
Ouais, parce que du coup, tu as commencé par une alternante. Et d'ailleurs, c'était très intéressant ta publication là-dessus où tu parlais d'une, entre guillemets, erreur financière que tu avais faite là-dessus. Est-ce que tu viens de nous en parler? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, OK, je vais prendre une alternante ou un alternant, c'est le bon plan, etc. Et en fait, quand j'ai vu ton post, je me suis dit, voilà pourquoi j'adore Nina. Ça, c'est du contenu, c'est du vrai, tu vois.
Ouais, non, moi, j'ai pas de problème à parler d'argent, tu vois. Alors, j'ai recruté une alternante. Myangali, que je salue aussi. Alors, je l'ai rencontrée, on a fait un entretien, parfait, très bon fit, ok. Je décide de la recruter, et là, donc à l'époque, il y avait une aide de 8000 euros pour les alternants, plus la prise en charge par ton OPCO, donc qui est ton organisme qui collecte, voilà. Et donc, j'avais budgétisé l'alternante, je ne sais plus exactement à combien, mais je ne sais pas, on va dire, c'était peut-être 1000 tu vois, euros par mois. Donc l'alternante, super contente, je lui annonce, j'annonce à l'école, et puis là, je découvre que toutes les aides dépendent de l'âge de la personne. Et donc moi, l'alternante que j'ai prise, elle a plus de 30 ans, et du coup, ça ne me donne droit à aucune aide. Donc j'avais quand même mon OPCO qui pouvait payer l'école, ça c'était cool, mais notamment l'aide de 8000 euros, ben, je ne pouvais pas l'avoir, tu vois. Et pas seulement, en fait. Il y avait aussi une autre aide que je ne pouvais pas avoir. Bref, ça m'a mis vraiment dans la sauce. Et au final, c'est d'ailleurs qui m'a coûté 12 000 euros. Alors, je suis très contente d'avoir mon alternante et franchement, je ne regrette pas ce choix-là. Mais j'aurais quand même pu avoir le choix, parce qu'on n'avait rien signé, de dire à l'alternante, quand j'ai découvert ça, bah, écoute, désolé, moi, je n'avais pas prévu ça dans le budget, ciao.
Oui.
Mais je me suis dit... Ben en fait, c'est dégueulasse, quoi. En fait, ça se fait pas de faire ça. Et c'est pas cool, quoi. Enfin, franchement, tu vois, donc j'ai eu un vrai cas de conscience. J'en ai parlé à tous mes potes entrepreneurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entrepreneur et entrepreneuse, on a toujours un crew de potes entrepreneurs à qui on va voir et qu'on dit, oh là là, je suis dans la sauce, là, tu viens m'aider, tu vois. Et donc, tout le monde vient me donner son avis. Et toi, t'es là, bon, OK, je vais essayer de faire la moyenne des avis et essayer un peu d'arbitrer en fonction de qui je suis. Et donc, j'en ai beaucoup parlé autour de moi et avec des avis super différents. Des gens qui me disaient, bah, Nina, tu t'es pas engagée. Franchement, la santé de ta boîte, c'est plus important que ta morale. Vraiment, tu peux toujours faire marche arrière. Et des gens qui me disaient, mais écoute, Nina, si tu n'es pas capable de, entre guillemets, rentabiliser le salaire de ton alternante, c'est que tu n'es pas une bonne chef d'entreprise, quoi.
C'est dur.
Et j'ai fait, OK. en réalité, moi, ça me posait trop de problématiques de faire marche arrière là-dessus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même dit, donc j'en ai parlé à mon alternante, et je lui ai dit, voilà la situation, voilà ce qui se passe. Est-ce que, enfin, moi je te dis OK, mais est-ce que toi t'es OK? Et elle m'a dit, oui, OK. Et puis tu vois, du coup, ça nous a créé une relation qui aujourd'hui est celle qu'on a aujourd'hui et qui est top. Et donc, je pense vraiment que ça a contribué au fait qu'on bosse mieux ensemble aujourd'hui.
Mmh.
Donc, vraiment, si vous recrutez des alternants et que vous comptez sur l'aide, ne vous prenez pas les alternants comme en vous disant c'est de la main-d'œuvre pas chère, quoi, vraiment
ouais.
Pas. Parce que déjà, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de formation. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on ne mesure pas, c'est le temps que tu vas passer à la former.
Mm-hmm.
Et deuxième chose, si tu comptes sur des aides, renseigne-toi vraiment bien avant.
Et du coup, tu as recruté de nouvelles personnes récemment ? Ou vous êtes toujours que deux pour l'instant ?
Alors, en CDI, enfin en CDD, CDI, alternance, contrat, vraiment, on est deux. Mm-hmm. Mais je suis entourée au quotidien d'une personne qui s'appelle Alexandra, qui est mon assistante virtuelle, qui est la personne qui gère littéralement toute ma vie et ma boîte. c'est grâce à elle que mon alternante est payée, c'est grâce à elle que j'arrive à traiter tous mes emails, c'est grâce à elle que j'arrive à booker des soirées, organiser des soirées ramène ta fraise, etc. Elle fait énormément, elle fait toutes les factures, elle gère toute la compta, vraiment c'est une personne incroyable. Aujourd'hui je pourrais plus vivre sans elle, donc c'est pas une salariée, mais c'est une autre manière de s'entourer quand vous êtes entrepreneur et entrepreneuse. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est si vous avez peur de déléguer en vous disant que vous allez devoir vous embarquer dans un contrat type CDI, il y a d'autres manières de s'entourer, notamment avec des freelances et des personnes qui veulent s'inscrire sur le long terme avec vous, qui ont envie aussi d'avoir leur liberté et d'avoir d'autres clients à côté, mais qui ont aussi envie d'avoir quelque chose avec lequel elles peuvent vraiment avoir un impact. Et donc, ils prennent deux ou trois clientes. Moi, c'est à peu près les freelances avec lesquelles je bosse, elles sont deux ou trois clientes. On signe un contrat long terme, tu vois, pour qu'elle aussi, financièrement et puis intellectuellement, elle soit sereine. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à la personne « oui, c'est pour le long terme » et puis en fait, ouais, ça n'a pas de contrepartie. Et c'est comme ça que tu crées aussi des relations de manière à déléguer. Et dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est si aujourd'hui, tu n'es pas sécurisé par rapport aux revenus de ta boîte, c'est une manière aussi de te dire « je ne m'embarque pas dans un CDD ou un CDI » et ça ne coûte pas si cher que ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut payer les gens à leur prix, et etc. Mais ça coûtera toujours moins cher qu'un salaire. Et surtout, tu peux avoir des personnes avec lesquelles tu ne vas pas bosser sur un plein temps. Donc mm-hmm. ça te permet d'aussi arbitrer ton budget et de ne pas devoir payer tout un salaire. Tu peux avoir des personnes que tu vas prendre, elles vont prendre 500 euros par mois, 200 euros pour le community management, 700 euros par là. Et donc toi, tu fais ta petite tambouille aussi avec tes freelances en interne. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette manière de déléguer. C'est que tu peux t'entourer de personnes qui ont envie de s'inscrire dans un projet avec toi sur le long terme, avec des bonnes relations et des personnes que tu apprécies, quoi, et qui te déchargent aussi.
Ouais, c'est complètement important. Pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, sur le fait effectivement de potentiellement repasser sur Ramène ta fraise ou la manufacture du copywriting, est-ce que le fait de te dire que c'est plus forcément toi qui vas donner les bootcamps, etc., ça fait naître des peurs ou des doutes sur le fait de continuer à faire des ventes, à avoir une entreprise, tu vois, qui est dans la croissance?
Moi, je suis très heureuse, moi, si je pouvais disparaître de ma boîte. Non, c'est une excellente question, mais oui, c'est dur parce que c'est une question de contrôle.
Ouais.
En fait, c'est une question de contrôle. Aujourd'hui, quand tu es seule dans ta boîte, c'est toi qui contrôle tout, c'est toi qui es fait avec ton niveau d'exigence, c'est toi qui le maîtrise. Si ça merde, c'est de ta faute. Si tu délègues, en fait, il faut accepter que les choses, elles ne sont pas faites à 100% comme toi, tu veux. Donc, quel est ton niveau d'acceptation? Est-ce que c'est 100%, 80%, 30%, 20%, 10% de ce que toi, tu fais? Donc, quelles sont tes attentes par rapport à ça? Ça, je pense que c'est important de se les fixer. Quelles sont les erreurs avec lesquelles tu es OK et celles avec lesquelles tu n'es pas OK? Donc, oui, ça fait peur. Mais au bout d'un moment, tu comprends que quand tu veux faire quelque chose de grand, tu n'as pas le choix. En fait, soit tu veux rester petit et dans ces cas-là, tu te dis OK, moi, je veux rester sur... Alors petit, je vais dire 10 cas par mois, mais moi c'est parce que je faisais au début. Chacun dit mes petits, comme ils
se sont.
Voilà. Mais soit tu dis ok, je veux rester petit, et dans ces cas-là, je garde mon confort, je garde ma maîtrise, je garde mon contrôle. Et moi, c'était ce sur quoi j'étais partie à la base. Mmh. À la base, moi, j'étais partie pour être solopreneur. Je dis, les gars, ok, moi, je vais faire 10 cas par mois, je vais bosser 25 heures par semaine et foutez-moi la paix, je vais faire ça toute ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai un projet plus grand qui est d'aider les femmes à prendre la parole, toutes les femmes à prendre la parole. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des entrepreneuses, mais peut-être que demain, j'aiderai les salariés. Mmh. Peut-être que demain, j'aiderai les dirigeants. Peut-être que demain, tu vois. Et donc, ce projet m'anime tellement qu'il est tellement grand que faut accepter que je ne pourrais pas le réaliser toute seule. Ou sinon, autre manière de faire, bah, te dire, bah, voilà, moi, je veux voir un petit truc, entre guillemets petit. Hein, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des médias et que tu n'as pas un effet de médias et que tu n'es pas exposé. Mais j'accepte que, bah, en fait... je ne dépasserai pas un certain périmètre. Et c'est OK, tu vois. Mais la vraie question, c'est quelle vision tu as pour ta boîte ?
C'est clair que c'est ce qui va dicter au final tout ton business model, toute ta stratégie marketing. Effectivement, c'est la question la plus importante à se poser. Ouais,
ouais, c'est ça. Et puis, tu peux avoir un business model où tu passes 20 heures par semaine, tu délivres tes coachings, tu factures cher tes coachings, ouais. Tu vois. Moi, je facture 500 euros de l'heure. Enfin, en fait, est-ce que tu es OK, quoi ? Est-ce que ta vie, tu es OK sur ces 20 heures de taf ? Sur le chiffre d'affaires que ça te ramène derrière et de rester là-dessus, point.
Mmh.
Tu vois, et pas forcément ben, avoir autre chose. Tu vois, est-ce que toi, tu veux au contraire, ben, je sais pas moi, impacter plein de gens ? Est-ce que peut-être que le coaching, c'est pas trop ton truc ? Peut-être que tu préfères faire des plus petits produits, moins chers, mais impacter plus de monde ? Et donc là, c'est un autre type de produit. Mmh. Tu veux faire ? Est-ce que, alors moi, c'est mon cas. Moi, ce que j'aime, c'est l'effet de groupe. Moi, je suis très tribu. Ça me correspond très bien, la tribu. C'est comme ça que je fonctionne, c'est qui je suis. Et donc, c'est pour ça que moi, le format bootcamp, il marche. Parce que ben, c'est le prolongement de moi-même. Et donc, la vraie question à se poser, c'est comment tu as envie de passer tes journées, premièrement. Et deuxièmement, à quoi ressemble ta vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fonction de ça, ben, là, tu choisis ta boîte, tes produits et tout le reste.
Ça, c'est clair pour toi à ce niveau-là, même à 5 ans.
Alors, oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair, mais c'est pas parce que aujourd'hui c'est cette image-là que ça, elle peut pas changer. Mais ça te donne, si tu te fixes pas de vision, d'objectif, tu n'atteindras jamais. Moi, dans 5 ans, je voudrais que Ramène ta fraise soit ma boîte principale. Dans Ramène ta fraise, on aura la première track qui s'appelle le bootcamp aujourd'hui, qui est sur LinkedIn. Mais peut-être qu'on aura une autre track qui sera prise de parole en public. Peut-être qu'on aura une autre track qui sera changer de job ou prendre un job leadership, tu vois, travailler sur ton leadership. Là, je te donne une vision, je sais pas si ce sera ça, j'en sais rien, tu vois, mais je sais que je veux que Ramène ta fraise soit un espace safe de femmes en non-mixité dans lequel on crée de l'empouvoirment. L'empouvoirment, il passe par l'écriture, l'empouvoirment, il passe par la prise de parole en public, l'empouvoirment, il passe par la prise de confiance en soi. Voilà, c'est ce que je sais. Après, et c'est pourquoi je le fais. Parce que aujourd'hui, bah, on vit dans un monde où les mécanismes de domination existent encore. Dans le top 10 personnes sur LinkedIn, il y a un top 10 qui est sorti il y a un an et demi. Bah, moi, j'étais dedans, il n'y avait que 2 femmes, tu vois.
Ouais.
Donc, ça montre bien qu'en fait, LinkedIn à l'époque, donc c'était il y a un an et demi, depuis ça a changé, mais LinkedIn à l'époque, ça ressemblait clairement à un codir, tu vois. D'ailleurs, majoritairement des mecs blancs aux cheveux gris, quoi. J'ai rien contre eux, mais c'est juste qu'en fait, on représente, c'est pas représentatif. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que bah, ça, c'est mon pourquoi. C'est où est-ce que je veux que Ramène ta fraise soit dans 5 ans. Après, exactement ce qu'il y aura dedans, je ne suis pas très sûre. Mmh. Mais en tout cas, c'est le chemin qu'on prend, ouais.
Ouais. Avec une mission et des valeurs aussi fortes, est-ce que, parce que tu clames au effort le féminisme, est-ce que ça t'a valu des attaques, des étiquettes ou d'autres choses là-dessus ? Parce que, alors moi, je suis beaucoup sur Twitter en tant que spectatrice et je vois en fait que les gens ne comprennent pas la définition du mot féminisme. Et donc je me dis, toi qui as une position aussi forte et assumée, est-ce que du coup, il y a le revers aussi des gens qui viennent t'attaquer là-dessus, quoi ?
Mais moi, je suis la fémène de LinkedIn. Je suis l'extrémiste féministe. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, je suis très première ligne.
Ouais.
Première ligne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'accepte de dire des choses qui sont radicales au sens de racine, pas au sens d'extrême, tu vois, qui sont très fortes. J'assume beaucoup ça. Parce que je sais qu'être première ligne, ça permet à des personnes qui ont envie de s'exprimer, bah, d'être un peu au niveau d'en dessous, tu vois, et de se dire, bah, ok, en fait, ce que je dis, c'est pas si affirmé que ça. Il y a Nina qui... En fait, c'est ce qu'on déplace, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Fenêtre d'Overton, c'est, bah, tu vois, à côté d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle semble modérée. Tu vois,
ouais.
Enfin, tu vois, c'est ce principe-là que quand tu déplaces la fenêtre d'Overton, tu déplaces ce qui est acceptable de dire comme propos. Et donc, ça permet à des personnes qui sont moins en première ligne bah, aussi de, tu vois, de s'exprimer et de se dire bah, c'est OK de dire ça. Et Nina, elle me donne envie de prendre la parole là-dessus. Donc ça, c'est déjà une position que moi, j'ai prise aussi, qui a ses inconvénients. Et l'inconvénient de ça, bah, c'est les personnes qui vont réagir de manière négative à mes propos. Donc, ce qu'on appelle des haters, mais ce n'est pas forcément des haters, c'est peut-être juste des gens qui ne sont pas d'accord, des contradicteurs. Mmh. Il y a plusieurs manières de réagir. Soit tu supprimes, soit tu réponds. Soit tu...
Soit tu fais quoi ?
Soit tu
ouais. Préserves ton énergie
ou tu ignores.
Ouais, ou
tu réponds. Soit tu supprimes, soit tu réponds, soit tu ignores. Moi, au début, je débattais pour faire comprendre à la personne qu'elle a tort. En réalité, ce qui se passe, c'est que la personne, elle, t'es dans un espace public. Et donc, il y a une arène. Quand il y a deux personnes qui débattent, il y a des spectateurs. Donc, la personne, elle va jamais se remettre en question dans son opinion. Alors que si tu vas la voir en DM, ben, t'as quand même beaucoup plus de chances pour que ça change. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, je pense que c'est en fonction de chacun. Moi, maintenant, je supprime parce que j'ai tellement de visibilité que si je laisse un commentaire sous mon post, ça donne de la visibilité à ce commentaire. Et moi, je veux pas. Et il y a ce genre de propos, donc ça je veux pas. Ensuite, le fait d'affirmer haut et fort ses opinions, ça t'oblige aussi à être forte sur les arguments, sur ce que tu penses. Et donc, moi, je suis très prête à aller au front pour le féminisme parce que je suis très OK avec ce sujet. Est-ce que ça me ferme des portes ? Oui. Il y a beaucoup de gens pour qui me trouvent extrême, qui trouvent que ce que je dis, c'est pas vrai, ou pas comme ci, ou pas comme ça, ou que ça n'a rien à faire sur LinkedIn, tu vois. Ça, il y en a beaucoup. Ce que j'ai accepté, c'est que j'étais OK de ne pas travailler avec ces personnes-là. Mm-hmm. C'est un peu un principe marketing qui est de la polarisation, de se dire que ben, qui tu es toi et qui tu acceptes de repousser. Et donc, moi, ben, j'accepte de repousser ces personnes-là. Si tu veux, l'intersection entre l'électorat d'Éric Zemmour et Nina Ramen, elle est très faible. Ouais. Et ça, j'en suis plutôt très contente. Donc au final, ben, c'est des gens avec qui je ne travaillerai jamais et ça me va. Par contre, la contrepartie de ça et qui est cool, c'est que les personnes qui t'apprécient, elles t'apprécient vraiment. Regarde-toi, quand tu me dis « Ah ouais, c'est exactement ce que je pense ben, », tu vois, tu crées quelque chose avec les personnes qui t'écoutent et qui te lisent, qui est tellement fort parce que tu dis tout ce qu'elles pensent tout bas, qu'elles se disent, bah ok, en fait, Nina, c'est une personne avec qui j'ai envie d'interagir, que j'ai envie de suivre. Et ou pas. Et donc, moi, soit on a envie de cliquer sur j'aime, soit on a envie de cliquer sur bloquer, quoi. Et ça me va très bien.
C'est intéressant. Moi, j'adore cette interview. Elle pourrait durer des heures, mais bon, j'aime bien finir par savoir quels sont tes projets et tes ambitions pour 2023, voire 2024. En tout cas, ce que tu as prévu aux petits oignons. Pour la suite.
Oui, et bah écoute, première chose, j'ai mon livre.
Ah, mais je savais pas. Ouais. Trop bien, félicitations.
Merci.
Alors, il parle de quoi et il sort quand ?
Alors, le livre s'appelle Transformer son audience en chiffre d'affaires.
Ok.
Donc, c'est comment tu crées une audience, notamment sur LinkedIn, et comment tu amènes ces gens-là à t'acheter. Pourquoi ? Parce que bah, moi, je fais partie des personnes qui ont fait de la prospection, de l'appel à froid, et ça m'a traumatisée. Donc j'ai choisi l'autre voie, qui est créer du contenu, plante un drapeau, et puis les gens qui adhéreront viendront, et tu n'auras pas à galérer en prospection froide à te prendre des portes. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est comment tu peux utiliser la création de contenu, notamment à l'écrit, alors 100% à l'écrit, comme levier pour ta boîte. Donc on parle de créer du contenu sur LinkedIn, puis comment créer une bonne newsletter, puis comment créer une bonne page de vente. Donc c'est comment on te connaît, LinkedIn. Ensuite, la newsletter, c'est comment t'apprécies, comment on t'aime, comment on interagit avec toi. Et la dernière chose, c'est comment on t'achète. Donc, transformer des inconnus en personnes qui te connaissent, qui t'apprécient et qui t'aiment tellement qu'elles ont envie de t'acheter. De manière, la transition la plus douce possible et la plus OK aussi pour toi, que tu ne sois pas dans ce truc-là de « Oh là là, j'ai l'impression d'être vendeuse de tapis. » Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, c'est faire grandir la communauté Ramène ta fraise. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, on est 3500. On espère arriver à 10 000 un jour. Créer des produits, d'autres produits. Je ne sais pas encore quels seront-ils, parce que moi, je crée tous mes produits avec ma communauté. Donc, je leur demande de quoi elles ont envie, de quoi elles ont besoin aujourd'hui. Probablement que ce sera un produit qui les aide à créer un produit en ligne. Peut-être que ce sera ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas défini, parce que moi, je crée mes produits en fonction des gens que j'ai en face de moi. Et c'est d'ailleurs à ça que ça sert d'avoir une audience. C'est que tu crées tes produits avec elles, et puisque tu crées tes produits avec elles, tu es sûr qu'elles vont les acheter. Parce que ben, ils sont designés pour elle, le prix est juste pour elle, le contenu est juste pour elle. Donc au final, ben, quand tu l'as construit avec elle, ben, au moment où le produit sort, tu as déjà des clientes.
Écoute, merci beaucoup. C'est intéressant. Moi, il me tarde de découvrir ce livre, en tout cas. C'est de beaux projets. Je te remercie pour ton temps et ton partage. C'était un échange que j'ai trouvé qui, pour moi, je pense que les deux adjectifs que je retiens de cet échange, c'est la force, la conviction et, bon, ça fait trois, et la transparence. Merci beaucoup, Nina.
Un grand merci, Safia.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.